Vous écoutez
RMC.
Bon, Julien et Polo sont de retour. J'espère que tout va bien se passer, que la ligne va bien tenir. Moi, je vantais la qualité technique, physique de ce duel entre Liverpool et City. Fred aussi. Polo n'était pas d'accord avant qu'il soit coupé. Polo, es-tu là ?
Oui.
Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord avec nous ?
Bah, parce que la qualité physique, je suis d'accord. C'est d'ailleurs un match d'une intensité assez impressionnante. Mais la qualité technique, je ne suis pas d'accord. Ou alors, c'est la conséquence du fait qu'on avait deux Golgoth qui s'affrontaient. La semaine dernière, il y a deux semaines, je critiquais le niveau entre Dortmund et le PSV concernant les passes réussies à 83 et 78%. Et bien là, c'est pareil. On est sur une tendance d'une passe ratée sur cinq. Donc, c'est pas un beau match technique lorsqu'on compare avec le Real et le Barça de l'époque. Faut se voir la qualité technique qu'il y avait à l'époque par rapport à maintenant. Le nombre de centres réussis, il y en a un seul réussi du côté de Manchester City, il doit y en avoir trois du côté de Liverpool. Donc en fait, on a vu un match, évidemment, par rapport à l'effectif qu'ils ont, un match entre deux Golgoth qui s'affrontent, comme si on était sur un match de boxe en train de s'envoyer des pains à longueur de temps. Mais techniquement parlant, je suis désolé, je me suis pas éclaté plus que ça. Ça va à 200 à l'heure, mais quand on regarde les statistiques un petit peu, on se dit, et moi j'aime bien regarder, si tu veux, la circulation de la balle d'une équipe ou l'autre. Et je suis désolé, la circulation de la balle, ça n'en fait pas un match aussi grand qu'on veut.
Peut-être dû à une intensité physique.
Oui, mais si c'est la conséquence.
À une pression permanente. Je ne sais pas ce qu'en pense Julien aussi.
Si, c'est ça, je pense. C'est ça. En fait, j'en parlais encore aujourd'hui. Je pense qu'on doit comprendre vraiment par rapport au pressing de Liverpool, qui pour moi est la meilleure équipe de le gegen pressing. Tu l'as vu, Polo, chez toi, avec Klopp, mais avec d'autres aussi. Mais pour moi, cette équipe-là, elle presse comme personne, ou comme très rarement, en tout cas, surtout avec les absents qu'elle a aujourd'hui. Mais ce qui est très, très difficile, je pense, pour l'adversaire, plus que finalement voir des joueurs courir dans tous les sens, c'est que tu sais très bien, toi, surtout une équipe comme Manchester City qui joue beaucoup, sinon c'est facile, hein, pour battre le pressing, tu balances des longs ballons devant et puis tu essaies d'être là sur les seconds ballons, etc. Mais quand tu veux reconstruire de derrière face à une équipe comme Liverpool qui presse autant, l'impact psychologique que cette pression a sur toi, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu vas toucher le ballon, il faut que ton contrôle soit parfait, que ta passe soit parfaite. Tu peux pas te permettre une touche un petit peu trop longue, par exemple, parce que sinon tu sais que tu vas perdre le ballon à chaque fois. Et je pense que ça, psychologiquement, sincèrement, mentalement, ça doit être tellement fatigant, et tu dois avoir une telle concentration du début à la fin du match, parce que tu sais que la moindre erreur, elle peut te coûter très cher face au pressing adverse, et que ça doit être un enfer à vivre. Et c'est pour ça aussi que je pense que tu as raison, peut-être qu'il y a eu du déchet qu'il n'y aurait pas dû y avoir sur certains passes. Sur les centres, j'ai des stats qui sont un peu plus élevés que les tiennes, mais ça reste 6 centres réussis pour Liverpool et 2 seulement pour City. Mais le pourcentage de passes réussies, c'est à 85%, on va dire, plus ou moins pour les deux. Donc oui, effectivement, t'as raison, on est loin des chiffres habituels pour ces deux équipes-là, mais je pense qu'il y a une telle intensité, et surtout pour City, d'avoir cette force mentale de résister au pressing, qui, je pense, est vraiment difficile à gérer, et on l'a vu en seconde période.
Bon, à l'arrivée, Liverpool garde un point d'avance sur City à 10 journées de la fin. Arsenal en a profité pour prendre la tête, on en parle tout à l'heure d'Arsenal. Hein. Est-ce que les Gunners sont capables de la garder à la tête de Première Ligue ? Demain soir, 21h, le retour de Ligue des Champions, Barça-Naples. Un partout à l'aller, match, ce que vous en pensez, impronosticable entre deux laborieux du moment, le Napoli tenu en échec par le Torino, et Fred, le Barça, qui ne propose quasiment plus rien dans le jeu. Petite victoire 1-0 contre Mallorca.
Ouais, c'était vraiment terrible. On se dirigeait vraiment vers un 0-0, mais il y a un gamin de 16 ans, quoi. C'est-à-dire que quand t'es le Barça et que tu gagnes grâce à un exploit personnel,
tu t'en remets un gamin de 16 ans.
Tu t'en remets, ouais. Le but de Lamine Yamal, il est exceptionnel. Mais, et c'est comme ça, le Barça c'est-à-dire que le souvenir, le concept même qu'on a du Barça, c'est que les buts, normalement, arrivent grâce au talent des joueurs, mais grâce à une construction. C'est ça, l'identité du Barça. Rappelez-vous combien de fois, c'est vraiment la nostalgie ce soir, hein. Le nombre de passes, parfois on calculait le nombre de passes du Barça de Guardiola.
C'était une mise à mort, en fait.
Une mise à mort, voilà.
Ouais, c'est une corrida.
Voilà, c'était prêt. Là, c'est une fulgurance. C'est-à-dire qu'on voit pas le rôle de l'entraîneur, on voit pas le collectif, on voit, Ter Stegen qui fait les arrêts qu'il faut, et tu vois là, cet exploit extraordinaire d'un gamin de 16 ans. Donc, alors c'est merveilleux pour le Barça d'avoir un tel joueur, mais on se dit que si contre Mallorca qui est 15e, même s'ils sont qualifiés très logiquement d'ailleurs pour la finale de la Coupe du Roi, cette équipe de Mallorca, c'est un tout petit club, puis c'est un club ultra défensif, une équipe ultra défensive avec un entraîneur défensif, etc. Et là, en fait, s'ils avaient eu un meilleur attaquant, ils auraient pu gagner, enfin, parce qu'ils ont eu des occasions. Donc, voilà. Donc, je suis incapable de donner un pronostic pour cette équipe, pour le Barça, contre Naples. Pourquoi? Bah, parce que il y aura pas Pedri, il y aura pas Frankie de Jong, quoi. Et il y aura pas Ferran Torres. Là, tu te dis, ça fait quand même beaucoup de blessés. C'est-à-dire, Ferran Torres un peu moins, mais dans ce qui est la création de jeu, qui est quand même l'identité du Barça, et qui permet finalement de te rassurer quand tu contrôles la balle. Tu te rassures défensivement aussi, parce que la défense, c'est plus que ça a été non plus le Barça. Je vous rappelle que ce Barça battait des records défensifs la saison dernière. Là, c'est catastrophique. Donc, cette capacité à dominer les matchs, à savoir que tu es le patron du match, elle n'existe plus dans le Barça d'aujourd'hui. Donc, tout est dangereux. À partir du moment où tu n'as plus cette capacité à être ce qu'on appelle señor y dueño del partido, le seigneur et le propriétaire du match. Ça, c'est ce qu'on dit en Espagne. Et donc, tout est possible. Alors, le Barça, je pense quand même que le Barça, chez lui, même si c'est pas le Camp Nou, que c'est Montjuïc, que ça sera la moitié moins de public que Camp Nou, qu'aujourd'hui Xavi a demandé aux fans d'être à fond, etc. Il y aura une belle ambiance, etc. Il y a aujourd'hui des c'est le mot que je cherchais. Il y a des incertitudes, et je dirais même des inconnus.
Ouais, t'as quasiment aucune conviction,
voilà,
certitude.
Quant à ce Barça. Bon. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, je pense que le Barça, au vu du match aller, était quand même meilleur que Naples. Ils ramènent qu'un partout, mais ils sont meilleurs. Donc, je pense qu'ils vont se passer quand même. Ils vont passer quand même. Ah. Mais l'absence de Long et de Pedri, c'est un drame, quoi.
Bon, Johan, moi, je regardais le match tranquillement ici, en préparant l'after vendredi soir. Je m'ennuyais. L'ancien Naples Torino. J'ai vu un éclair de Garasrelli à côté gauche, qui fait un long 1-2, qui est servi, qui marque. On dit, c'est bon, le Napoli, en tribune de Laurentiis et en fusion, c'est génial, on va gagner 1-0. Un partout contre le Torino.
Oui, alors
ça n'avance pas.
Non, mais le c'est vraiment particulier parce que le Torino, c'est une de ces équipes comme l'Udinese, et moins cette saison, mais les années précédentes. J'ai souvent utilisé le terme sporcare, qui veut dire salir le match. Oui. Et c'est des équipes qui mettent une telle dimension physique dans les duels qu'ils te sautent dessus quasiment à chaque contact, qu'en fait tu ne peux quasiment rien faire. Et ces équipes-là sont extrêmement ennuyeuses. C'est quasiment impossible de bien jouer contre ces équipes-là. Donc je prendrais pas forcément ça comme une préparation à ce qu'on va voir face au Barça, où le jeu sera sans doute plus ouvert, où il y aura moins cet athlétisme, athlétisation des joueurs qui sont vraiment, il y a des Golgothes dans l'équipe du Torino. Vous regardez la dimension physique de certains joueurs, ils peuvent faire du foot, ils peuvent faire du rugby, ils peuvent faire du basket, ils peuvent faire du volley, ils peuvent faire pas mal de choses.
Il y a une section multisport.
En tout cas, par exemple, le volley et le basket, c'est très populaire en Italie, et ils pourraient largement avoir leur place dedans. Et évidemment que c'était pas un beau match. Néanmoins, moi, je retrouve quand même quelques certitudes dans le jeu. Avec ce Napoli de Calzona, alors on est très loin évidemment de ce que faisait le Napoli de Spalletti, mais ça,
il faut
l'aura
le deuil,
plus, on voilà. L'aura plus. Donc,
tu l'avais annoncé de toute façon.
Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué, mais ce que j'aime, c'est que je revois un Lobotka central, c'est que je revois des milieux qui prennent des initiatives avec le ballon, je vois des milieux qui se projettent à nouveau, je vois des circuits de passe qui étaient habituels sous Spalletti. La possession en U, parfois, avec des points de verticalisation quand il faut. L'importance des ailiers, ça c'est vraiment la dominante aussi du jeu du Napoli depuis plusieurs saisons. Avec Kvaratskhelia qui est de retour à un très bon niveau. C'est pas anormal dans le sens où, quand tu joues beaucoup plus haut sur le terrain, que Kvara est pas obligé de redescendre et avoir 70 mètres à faire et à courir comme un dératé en dribblant 8 joueurs pour essayer de faire une différence. Mais quand il a simplement 10 mètres à faire, une accélération et 2 joueurs à prendre, il est capable de le faire. Donc, comme le bloc est positionné beaucoup plus haut, Kvara est beaucoup plus proche du but adverse, il est plus décisif, il impacte plus les matchs. De l'autre côté, Politano a fait un énorme début de saison sous Garcia. C'était sans doute le meilleur joueur sous Garcia, en tout cas le plus impactant, pour reprendre ce terme-là. Et on l'a totalement perdu depuis. Et ça serait bien que Politano, parce qu'il a aussi dans un coin de sa tête l'euro, c'est très important parce que Berardi, il y a quelque chose qui s'est joué il y a pas longtemps, c'est que Berardi a eu une rupture du tendon d'Achille, ne fera pas l'euro. Donc à droite, il y a vraiment une place à prendre de titulaire et une place à prendre, en tout cas dans le groupe. Donc il y a quasiment, tu peux être titulaire ou au moins dans le groupe. Et donc Politano, va falloir qu'il se réveille. Et pour affronter ce Barça-là, c'est clair qu'il va falloir que Kvara soit à un bon niveau, j'en doute pas vraiment, mais que de l'autre côté, Politano soit aussi en capacité de faire des différences dans les 1 contre 1, d'amener beaucoup de feintes, de déstabiliser les adversaires, de dédoublement avec Di Lorenzo, parce que la doublette Politano-Di Lorenzo, on l'a très peu dit l'année de Spalletti, mais ça a été royal. Mmh. C'est vraiment des joueurs qui s'entendent très très bien, pied gauche, pied droit. Donc quand il y en a un qui rentre intérieur, l'autre déborde. Quand il y en a un qui part sur le côté, l'autre vient intérieur. Et les deux s'entendent très très bien. Les deux pourraient être d'ailleurs en sélection nationale, ensemble titulaires. Donc ce Napoli-là contre le Torino, oui, c'était pas génial, ok. Parce que c'était le Torino aussi, et que sincèrement, c'est l'une des équipes les plus chiantes, mais vraiment, de toute la Serie A. Je ne prends jamais aucun plaisir en Serie A en regardant le Torino, mais vraiment. Mais je vois en tout cas des améliorations dans le jeu. Mmh. Et avec les absences de Young et de Pedri, les coffres forts du milieu de terrain du Barça, peut-être qu'il y a un coup à jouer.
Un coup à jouer demain soir 21h. Hein, retour Ligue des Champions, Barcelone, Naples, un partout. Au match aller, on sera là et vous serez là, hein, pour le débrief, bien sûr.
Bien sûr.
De ce 8e de finale. Allez, on revient dans un instant. On va parler du Borussia Dortmund avant de recevoir le PSV Eindhoven. Et puis Arsenal, peut-être garder la tête de PL jusqu'au bout. D'abord, la première minute de la soirée, celle de Polo Breitner. On envoie la musique, Polo.
La voix de Néda.
C'est bien ça, Polo.
Ah ouais, on aime bien.
Bah, j'ai voulu faire de Julien Laurence.
Très bien, mon Polo.
C'est-à-dire de la, c'est quoi, de la guimauve. Il est content, Polo.
Et donc, c'est le groupe s'appelle Yuli, Juillet. C'est une chanson, c'est un groupe assez populaire.
Hein. Ouais.
La chanson, c'est Partir ou Rester. Donc, je l'ai choisi, évidemment, parce que on a eu une interview exclusive d'Upamecano, au journal Kicker, qui a annoncé qu'il souhaitait absolument rester au Bayern Munich l'année prochaine. Il est encore sous contrat jusqu'en 2026. Et c'est très intéressant parce que le joueur est très, très critiqué. C'est sa deuxième saison. On pensait qu'il passerait un cap et ça n'a pas été cela. Et même si moi je le défendrais toujours, de par son style de jeu qui fait qu'il prend beaucoup plus de risques que d'autres défenseurs centraux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le nouveau Bayern qui se prépare en 2024-2025, où d'ailleurs les contours sont extrêmement flou, eh ben le fait que le défenseur central français international décide de rester me semble une excellente chose, et au moins il a une bonne opinion et on espère qu'il ne partira pas cet été. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, et donc la chanson c'est le groupe Yuli qui est Oder Bleiben, Partir ou Rester.
Partir ou Rester, magnifique, voilà. Polo. Plus calme, plus conventionnel, j'ai envie de dire même. Voire plus commercial, ce choix de Polo.
Voilà, voilà. plus conservateur, tu peux y aller.
Plus libéral, plus capitaliste.
Pas trop non plus, faut pas trop. Aller.